Donc bonjour. Alors avant d'entrer de plein pied dans cette présentation, je souhaite remercier le professeur Thomas Remer de m'avoir invité à parler dans le cadre de ce colloque interdisciplinaire. Alors si l'intitulé donc, de ce colloque évoque les anges et les démons, je vais poursuivre la logique de l'après-midi puisque la catégorie dont je souhaite parler maintenant s'inscrit dans la suite du titre puisqu'il s'agit d'une autre catégorie fréquemment située entre les hommes et les dieux, celle des héros. Héros que l'on dira à ce stade antique, souvent qualifiés de demi-dieux. Cependant, le point d'interrogation présent dans mon titre indique que cette présentation du héros comme une figure qui se situerait entre les hommes et les dieux n'est peut-être pas si évidente, ou du moins mérite-t-elle d'être interrogée. Ainsi, dans les minutes qui suivent, je vous invite à me suivre dans ce questionnement de la manière suivante. Tout d'abord, j'aimerais présenter brièvement les problèmes inhérents à l'étude de cette catégorie héroïque antique, si tant est qu'il y en ait une, alors même que le mot « héros » est si fréquemment employé dans notre vocabulaire quotidien, avec un nombre de significations multiples. Une fois ces problèmes exposés, nous nous tournerons vers des sources antiques pour voir ce que celles-ci nous disent du héros. Et parce que le mot « héros » par le latin nous vient du grec « héros », nous observerons dans cette deuxième partie comment la catégorie du héros épique apparaît dans les poèmes homériques et hésiodiques, ce afin de voir si son aspect de demi-dieu est bien ce qui place le héros entre les hommes et les dieux, ou si, à l'inverse, cette place intermédiaire n'est pas une idée somme toute étrangère à la poésie archaïque. Finalement, et en comparaison du point précédent, nous observerons la catégorie vétérotestamentaire du Gibor. Ce terme, et donc les personnages qualifiés ainsi, étant fréquemment appelé héros par les traducteurs en langue moderne de la Bible. Alors, vous l'aurez compris, la comparaison qui va être menée ici est double, c'est-à-dire que si nous comparons des récits provenant d'ères culturelles antiques, les épopées grecques et la Bible hébraïque, ces catégories anciennes seront mises en miroir de notre acception contemporaine du mot « héros ». Alors, je l'ai dit, la signification du mot est aujourd'hui complexe, et ce parce que le terme est porteur d'une polysémie. Un dictionnaire comme le Grand Robert, mais le Duden en allemand ou l'Oxford English Dictionary également, donnent en effet quatre significations du mot que je résumerai ainsi. Donc, tout d'abord, le héros antique, définition sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui. Ensuite, on trouve le héros de l'exploit, dont les exemples mêlent aussi bien un guerrier iliadique comme Hector que l'aviateur Jean Mermoz. Suite de quoi est présenté le héros du dévouement, du sacrifice de soi pour une cause, et c'est là l'image des pompiers new-yorkais du 11 septembre 2001. Et finalement est proposé le héros d'un récit, c'est-à-dire le protagoniste central d'un livre, d'une pièce de théâtre ou d'un film. Alors ces quatre définitions témoignent bien de la polysémie du mot héros dans nos langues contemporaines, mais elles sont aussi le reflet de la complexité inhérente à l'emploi de ce mot pour aborder l'Antiquité. Achille, est un héros antique, mais il est aussi l'auteur d'exploits, de même qu'il est le protagoniste central de l'Iliade. Les pompiers de New York, s'ils sont des figures du sacrifice de soi, sont également les auteurs d'exploits, ou encore les protagonistes d'une forme de fiction que peut être le documentaire télévisé. Ainsi, à l'image de ces flèches qui rendent le schéma illisible, nous pourrions l'ajouter, les catégories se mêlent, faisant apparaître le risque de projeter sur Achille un aspect propre aux pompiers new-yorkais, transformant le héros iliadique en héros du sacrifice de soi à la manière de certaines productions hollywoodiennes. Il faut donc être extrêmement prudent lorsqu'on aborde la catégorie du héros antique. De fait, il nous faut encore voir ce que nous appelons aujourd'hui et communément le héros antique. Et ça marche mieux si ça avance. Ouais. Les dictionnaires, lorsqu'ils présentent le sens antique du mot, donnent divers exemples. On trouve alors Achille ou Hector, mais on trouve également le roi Léonidas, passant, non sans problème, mais nous ne nous arrêterons pas dessus aujourd'hui, de la mythologie à une forme d'histoire. Si avec seulement trois exemples, l'Antiquité couvre déjà plusieurs siècles, ce champ ne s'élargit pas uniquement temporairement, car c'est le David vétérotestamentaire qui apparaît ensuite pour se voir accompagné de Siegfried et avec lui les mythologies nordiques. L'Antiquité n'est plus alors une période temporelle extrêmement large, pour ne pas dire trop vaste, elle est également un espace géographique qui semble aller du Levant à la Scandinavie en passant par la Grèce. Et cet espace semble pouvoir s'étendre, car avoir les noms affichés, on se surprend à ne pas lire celui d'Arjuna, par exemple, protagoniste du Mahabharata, une épopée indienne soit, mais épopée ancienne, antique voudrait-on dire, dans laquelle les exploits de ce protagoniste, de ses frères, sont comptés. Si la polysémie du mot héros semble affirmer qu'une catégorie contemporaine soit définissable, les nombreux exemples donnés pour présenter le héros antique semblent à leur tour infirmer l'existence d'une catégorie antique. Pourtant, avant de donner tous ces exemples de figures héroïques, il est une expression qu'on trouve toujours présente à côté de la définition de ce héros antique, que ce soit en français, en allemand ou en anglais, et c'est celle de demi-dieu. Dès lors, le héros antique, c'est Héraclès, ce fils d'Alcmène, mais surtout de Zeus. Mais n'est-ce pas là une simplification permettant de catégoriser définitivement le héros antique, ou du moins grec, de sorte de ne plus avoir à l'interroger, La deuxième partie, consacrée aux sources grecques, tentera de vérifier cette affirmation. Alors si les poèmes homériques décrivent la geste des héros de Troie ou le retour d'Ulysse à Ithaque, un autre poème, Les travaux et les jours d'Hésiode, parle lui aussi des héros, ou plutôt d'un âge, d'une génération des héros. De fait, c'est dans la description de la quatrième génération, placée donc entre celle d'Hérin et la cinquième, de fer, qu'apparaît le mot demi-dieu, hémithéoi, décliné au pluriel. Alors j'en lis un extrait. Et quand le sol eut de nouveau recouvert cette race, Zeus, fils de Cronos, en créa encore une quatrième sur la glèbe nourricière, plus juste et plus brave, race divine des mâles héros qui sont appelés demi-dieux et dont la génération nous a précédés sur la terre sans limite. Ceux-là périrent dans la dure guerre et dans la mêlée douloureuse, les uns devant les murs de Thèbes aux sept portes, sur le sol cadméen en combattant pour les troupeaux d'Oedipe, les autres au-delà de l'abîme marin, à Troie, où la guerre les avait conduits sur des vaisseaux pour Hélène aux beaux cheveux et où la mort qui tout achève les enveloppa. Alors, sans aller plus loin dans le texte, deux points sont ici à noter quant à la génération hésiodique des héros. Tout d'abord, nous apprenons dans la seconde partie du texte que cette génération héroïque est composée des guerriers de Thèbes et de Troie. Ensuite, par l'appellation qu'Hésiode donne à ce genos, race divine des mâles héros, nous comprenons, avec l'emploi d'un air, qu'il s'agit de figures masculines. Alors, cet aspect genré de la quatrième génération apparaît d'autant mieux que les trois générations précédentes, or, argent et bronze, sont composées d'anthropoi, c'est-à-dire d'êtres humains, hommes comme femmes. Mais ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est qu'Hésiode les dit hémithéoi, donc demi-dieu. On trouve ici la raison pour laquelle le héros épique grec, mais souvent le héros grec simplement, est dit demi-dieu, on s'appuie sur Hésiode. Pourtant, en s'attardant sur ce texte, la formulation apparaît être plus précise, puisqu'il ne s'agit pas d'une équivalence parfaite, Hésiode n'affirmant pas que ces mâles héros sont des demi-dieux, mais bien qu'ils sont appelés demi-dieux, oi kaleontai hémithéoi, ceux qui sont appelés demi-dieux avec l'emploi du verbe kaleo. Alors le fait qu'Hésiode précise qu'il s'agit d'une appellation est important, puisqu'il n'est plus alors possible d'affirmer que chacun des guerriers de Thèbes ou de Troie trouve une ascendance directement divine par l'un de ses parents. L'appellation de demi-dieu semble honorifique, reflet de la valeur que le poète prête à cette quatrième génération. En ce sens, Hésiode fait ici écho à la poésie homérique. Si Achille est bien le fils de Thétis et Pélée, donc une déesse et un humain, de même que le Troyen aîné est fils donc d'Aphrodite et d'Anchise, force est de constater que tel n'est pas toujours le cas. Agamemnon et Ménélas, par exemple, deux protagonistes pourtant centraux des poèmes homériques, fréquemment appelés héros, donc héros, sont fils d'Atrée et d'Érope, deux humains, ou Ulysse encore, alors là aussi, personnage central de l'Odyssée, n'a lui non plus aucun dieu dans ses parents. Est-ce à dire qu'ils ne peuvent pas être dits demi-dieux? Le vers 23 du chant 12 de l'Iliade semble indiquer l'inverse, dialoguant avec la poésie hésiodique et rappelant l'aspect honorifique, mais aussi englobant, du terme hémithéos dans ses poèmes. Je cite le passage. « Mais du jour où, chez les Troyens, les plus braves étaient tombés, ou du côté des Argiens, si quelques-uns vivaient encore, beaucoup avaient péri déjà, ou la ville de Priam, après 10 ans, avait été détruite, ou les Argiens, sur leur nef, avaient déjà pris la route des rives de leur patrie, de ce jour, Poséidon et Apollon décidaient de l'anéantir, donc le large mur construit par les Achéens, en dirigeant sur lui l'élan de tous les fleuves qui, des monts de Lida, coulent vers la mer, le Rhès et l'Heptapore, le Carès et le Rhodios, le Granic et l'Ésep, le divin Scamande enfin et le Simois, près de qui bouclier et casque sans nombre étaient tombés dans la poussière, avec toute la race des mâles héros, des mâles demi-dieux, pardon. Si le passage décrit la destruction du mur construit par l'assemblée achéenne, destruction qui arrivera une fois la guerre terminée, le terme hémithéos apparaît, comme chez Hésiode, pour parler d'un ensemble, les guerriers morts à Troie, ici appelé donc la race des mâles demi-dieux. La formule ressemble bien sûr au andron heron theion genos, donc la race divine des mâles héros d'Hésiode. En lisant ces deux exemples à la suite, le terme apparaît toujours pour nommer un genos, une génération ou une race, comme Mazon traduit le terme. Au vu des protagonistes présentés auparavant, exemple bien évidemment connu des compositeurs des poèmes homériques et hésiodiques, nous pouvons conclure que le terme hémithéos est un qualificatif honorifique servant à nommer l'ensemble des guerriers de Thèbes ou de Troie, qu'une moitié de leur ascendance soit immédiatement divine ou non. La question est alors la suivante, le héros Ulysse, qui pourrait être appelé, comme le fait Hésiode, demi-dieu, sans pour autant avoir de parents divins, est-il à situer dans cet espace intermédiaire entre homme et Dieu ? Ou pour le formuler plus largement, le héros épique est-il à situer entre l'humain et le divin, alors que son sang n'est parfois que celui d'un homme ? La poésie homérique, si elle n'utilise qu'une fois le terme hémithéos, et ce dans le passage présenté ci-avant, emploie à 139 reprises le substantif héros. C'est donc vers elle que nous nous tournerons maintenant pour observer comment s'y définit le héros épique. En s'attardant sur les occurrences du mot héros dans l'Iliade et l'Odyssée, en observant ses déclinaisons, cas et nombre, le genre étant toujours masculin, mais en analysant aussi quel personnage utilise le terme, deux emplois distincts se dégagent. Ainsi, l'analyse des emplois du mot montre que, selon que ce soit le narrateur ou les protagonistes qui usent du substantif héros, le terme prend un sens différent. Tout d'abord, le narrateur emploie le nominatif uniquement au singulier, alors que dans la bouche des protagonistes, Achille, Ulysse et tant d'autres, le mot est employé au vocatif, cette fois au singulier comme au pluriel. Et je précise que je ne parlerai aujourd'hui que du nominatif et du vocatif, l'emploi de ces deux cas étant particulièrement révélateur des remarques qui vont suivre. Alors, cette distinction d'emploi de cas et de nombre est centrale pour comprendre comment se présente la catégorie du héros au sein de ses poèmes. Observons deux extraits représentatifs de l'emploi du mot lorsque les protagonistes l'expriment. Donc, Agamemnon, qui s'adresse à son armée au vers 110 du chant 2, « Cher héros d'Anaïn, fidèle serviteur d'Arès ». Ou Patrocle, au chant 11, vers 838, « Comment sortir de là, que décider héros Eurypyle ». La lecture de ces deux vers permet de noter que lorsque les protagonistes emploient le terme, il s'agit toujours de s'interpeller les uns les autres, raison pour laquelle nous sommes face à des vocatifs. Mais dans ces extraits, nous observons également que le terme « héros » devient un synonyme de « combattant » ou de « soldat ». En effet, Agamemnon s'adresse à son armée en précisant qu'ils sont serviteurs d'Arès, de cette puissance du combat frontal, de même que Patrocle demande bien sûr des conseils de guerre à Eurypyle, au guerrier Eurypyle, membre parmi tant d'autres d'une armée. Si le mot « héros » prend dans la bouche des protagonistes iliadiques le sens de « combattant », appellation rappelant qu'ils sont partis d'un groupe, d'une armée, et cette collégialité rendant les différentes figures appelées ainsi relativement équivalentes les unes des autres. Du côté du narrateur, il en va différemment avec son emploi du nominatif singulier. Lisons les extraits suivants. Au chant 11 de l'Iliade, vers 482 à 484, Ulysse est dit « poikilomètes, plein de ruses, d'astuces ». Ainsi, de tous côtés, des foules de vaillants Troyens pressaient Ulysse, tandis que ce héros plein d'astuces bondissait, lance au poing, pour esquiver le jour fatal. Dans l'Odyssée, au vers 15 et 16 du chant 2, le héros Aegyptios est dit « âgé et savant ». Aegyptios fut le premier à porter la parole, c'était un héros chargé d'ans qui savait mille choses. Dans ces deux extraits, que le narrateur parle d'Ulysse ou d'Aegyptios, chacun semble sortir du lot de la masse. Ulysse, plein d'astuces et bondissant, se démarque nettement des autres guerriers, de même qu'Aegyptios, de par un savoir accumulé au fil des ans, se démarque des autres orateurs en parlant le premier. Dès lors, à l'inverse des protagonistes qui présentent un ensemble de héros, une masse de combattants, où l'individu disparaît dans le groupe, le narrateur construit un héros d'exception aux caractéristiques presque aussi nombreuses que le nombre de figures décrites avec le nominatif singulier. Ainsi, si le héros épique doit se trouver entre l'humain et le divin, il s'agira bien plus de la catégorie construite par le narrateur que celle des protagonistes. Et ici également, la poésie homérique dialogue une fois encore avec Hésiode, puisque celui-ci crée également une division dans la quatrième génération, celle des héros. Dans la fin de sa description, on lit « Ceux-là périrent dans la dure guerre et dans la mêlée douloureuse », et quelques vers plus tard, « à d'autres enfin, Zeus, fils de Cronos et père des dieux, a donné une existence et une demeure éloignée des hommes en les établissant aux confins de la terre ». Chez Hésiode, il semble y avoir deux types de héros. D'une part, la masse guerrière qui meurt, destinée à l'Hadès, est donc toute humaine. Et d'autre part, j'ai mis en italique dans le texte grec les particules menede, qui indiquent cette distinction, les héros fortunés, donc olbioi héroès, qui sont destinés aux îles des bienheureux, lieux situés aux confins de la terre, loin des êtres humains mortels. Ces héros fortunés semblent alors, de par leur destinée, se situer entre les hommes et les dieux. Ainsi, au vu des remarques apportées jusqu'ici, une catégorie intermédiaire épique semble bien être présente. Ce héros d'exception des poèmes homériques ou olbioi héroès, ces héros fortunés de la poésie hésiodique. Et il a peut-être ceci de divin qu'il explore son domaine d'action à la manière d'un dieu, mais ce, à son échelle humaine. Ainsi, Ulysse est divin en ce sens qu'il explore le champ de la métis en l'exprimant dans toutes ses formes, parfaite lorsqu'il casse son nom à Polyphème et à l'inverse, absente lorsqu'il donne son nom après l'avoir vaincu. sans pour autant jamais dépasser Athéna dans ce domaine, la déesse lui rappelant dans des dialogues qu'il n'est qu'un humain. Cependant, avant de poursuivre les conclusions de cette présentation, et parce que les dictionnaires présentent des figures vétérotestamentaires comme exemplaires du héros antique, il convient de se tourner vers la Bible hébraïque pour voir ce que ces récits nous disent d'une telle catégorie, peut-être située dans un espace intermédiaire entre les hommes et les dieux. Alors, comme je l'ai dit en introduction, le mot « héros » est employé dans les traductions en langue moderne de la Bible, mais ce, uniquement dans des passages de l'Ancien Testament. Nulle trace de héros dans le Nouveau Testament. L'apparition de ce mot dans les traductions de la Bible est relativement récente, puisque c'est Louis II qui va généraliser cet emploi, Luther ayant commencé à employer le mot « Held » 3 siècles avant lui. Mais cependant, aucune traduction ancienne de la Bible hébraïque, dont j'entends par ancienne la Septante ou la Vulgate, n'emploie le mot grec « héros » ou le latin « héros ». À l'inverse, dans nos langues modernes, le terme apparaît plus de 50 fois. Puisque les dictionnaires donnent des exemples de héros antiques vétérotestamentaires, j'ai donc cherché à voir quel personnage était ainsi décrit, mais aussi quel terme était employé en hébreu. Si différentes racines sont apparues, c'est dans plus de 80% des cas la catégorie du gibor qui s'est vue traduite par héros. Les extraits suivants vont montrer quel type de figure est dite gibor. Alors, en 1 Samuel 17:51, lors de l'affrontement de David et de Goliath, il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Donc c'est ici Goliath qui est dit gibor, alors traduit par héros. On notera simplement à ce stade que ce combat n'est pas sans rappeler les affrontements de champions que l'on trouve dans l'Iliade, par exemple. En 2 Samuel 1:25, suite à la défaite essuyée par l'armée de Saül et Jonathan au sommet du mont Gilboa, comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Si dans le passage précédent, le gibor évoquait l'affrontement de champions, c'est ici, avec giborim, et donc un pluriel, la masse de l'armée, l'ensemble des combattants qui est suggéré. Idée d'ensemble que l'on retrouve dans ce troisième passage, Proverbe 21-22, qui use là aussi du pluriel giborim. Le sage monte contre une ville de héros et abat la force dans laquelle il plaçait sa confiance. Alors, ces quelques extraits en témoignent, les contextes dans lesquels le terme gibor apparaît sont toujours ceux d'un affrontement, d'un rapport de force. Que le contexte soit celui d'une guerre, comme ceux vus précédemment, ou qu'il s'agisse d'une image servant à mettre en exergue une valeur, la sagesse du hakam qui seul au singulier surpasse les giborim au pluriel, les figures dites gibor sont toujours des personnes fortes physiquement, voire même, dans la plupart des cas, des combattants. Dès lors, le gibor apparaît être un équivalent d'une des formes du héros épique, mais il s'agit bien sûr de celle qui se dessine dans la bouche des protagonistes, la masse des héros combattants. À l'instar des soldats iliadiques, la catégorie du gibor ne semble pas se situer entre les hommes et les dieux. Au contraire, le gibor voit son humanité être durement affirmée dans la mort qui attend le guerrier et ceux qui l'ont foulé les plaines de Troie ou le mont Gilboa. Car si la mort de l'Achille iliadique est exceptionnelle, appelant un renonçant d'or, un Cléos Aftiton, l'Achille odysséen se fait le triste porte-parole de la part du destin qui peut attendre les combattants regrettant leur vie dans l'Hadès. Cependant, et bien que le gibor ne soit pas forcément ce héros d'exception construit par le narrateur homérique, je conclurai cette présentation en analysant une dernière occurrence de ce terme, cet extrait se détachant des autres dans l'usage qu'il fait de gibor. Il s'agit de Genèse 6:4. Alors je lis. Or, les géants, c'est-à-dire les Néphilim, étaient sur la terre en ces jours-là, et cela après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros, Giborim, renommés dès les temps anciens. Alors, ce passage complexe, et le professeur Mathis reviendra dessus demain, nous pose plusieurs questions. Outre le pluriel que peut suggérer Elohim, c'est-à-dire que nous pourrions lire les fils des dieux plutôt que les fils de Dieu, ce sont les termes Néphilim et Giborim qui sont extrêmement compliqués. Le problème central est de savoir si les Néphilim de la première partie sont ces Giborim, ces héros renommés de la seconde partie. Si les traducteurs emploient parfois le mot de géant pour traduire Néphilim, c'est parce qu'ils se font le reflet d'une traduction déjà ancienne, celle de la Septante. En effet, dans le texte grec, les Néphilim sont traduits par gigantes, mais la Septante, lorsqu'il s'agit de traduire giborim, n'emploie pas le mot héros, mais à nouveau gigantes. Preuve que cette traduction voit dans giborim un équivalent de ce que sont ces Néphilim, enfin, c'est-à-dire qu'elle précise qu'ils sont forts, donc peut-être qu'il y a cette équivalence qui se fait. Je ne trancherai pas aujourd'hui sur la lecture qu'il faut avoir de ce passage, mais ces questions témoignent de la difficulté de celui-ci. Un point cependant est à soulever quant à la question des catégories intermédiaires. Il s'agit bien sûr de l'union qui crée ces giborim, ces hommes renommés.
Le texte nous dit qu'ils descendent de l'union des fils des dieux et des filles de l'homme. Au vu de ce passage, et même si l'ascendance divine n'est pas directe, plaçant Séguiborim en petit-fils du ou des dieux, force est de constater qu'un motif similaire apparaît, celui du Hémitéos, du demi-dieu. L'usage de ce terme n'est pas forcément honorifique, comme observé dans les poésies homériques et hésiodiques, mais plutôt direct, visant à signaler la part de sang divin de certains protagonistes à l'image d'un Héraclès chez les Grecs. Cependant, le sang divin, s'il est constitutif de certaines figures épiques, n'est pas ce qui fait le héros épique. Rappelons-nous Ulysse ou Agamemnon. N'y a-t-il alors aucune catégorie vétérotestamentaire qui se situe entre les hommes et les dieux ? Alors, les exemples que nous avons vus indiquent l'inverse, et je pense qu'il faut simplement les chercher ailleurs que dans la catégorie du Gibor. Je conclurai alors ma présentation ainsi. Si nous avons vu que le terme contemporain héros, ou du moins les acceptions qui lui sont données, ne sont pas à même de couvrir le champ du héros épique, nous avons également observé qu'au sein des poèmes de la Grèce archaïque qui nous sont parvenus, le terme dénote deux catégories distinctes. Il y a l'appellation de groupe, qui s'applique à chaque héros, combattant de l'Iliade par exemple, et il y a l'appellation spécifique, qui crée donc le héros d'exception. Nous avons également vu que le héros épique n'a pas forcément un parent divin et que l'expression hémitéos peut avoir également un sens honorifique. Dès lors, si le héros épique grec est une catégorie intermédiaire entre homme et dieu, il s'agit bien plus de la figure d'exception construite par la Aide que de l'hémitéos. La catégorie vétérotestamentaire du Gibor a montré sa similitude avec les héros combattants de l'Iliade, ne se présentant pas, dans le même temps, comme une catégorie entre les hommes et les dieux. Cependant, les Néphilim de Genèse 6.4, ou ces Giborim un peu particuliers du même passage, sont des exemples de catégories particulières et qui semblent être plus proches de cet espace intermédiaire entre hommes et dieux. En observant ces catégories de plus près, celles-ci apparaîtront plus précisément dans leurs aires culturelles propres, mais en plus, dans un comparatif qui suivra cette piste, les catégories vétérotestamentaires mettront en exergue d'autres spécificités du héros épique grec. En espérant que cette communication fut compréhensible et agréable à l'écoute, merci de votre attention.